On va parler de littérature avec un romancier qui est devenu chroniqueur sur France Culture, Aurélien Bélanger. La France, c'est le livre qui comprend une sélection de vos chroniques, celles que vous donnez sous le titre de conclusion aux environs de 8h55 sur France Culture. C'est publié aux éditions Gallimard et France Culture. Et puis, nous sommes également en compagnie, en duplex à Aix-en-Provence, d'une éditrice, Françoise Nyssen. Françoise Nyssen, vous avez été pendant 18 mois ministre de la Culture, le billet de Stéphane Robert, pas sur les municipales, mais sur la politique. Quel regard, rétrospectivement, portez-vous sur la politique, Françoise Nyssen ?
Le biais sur les municipales est un bon exemple. La politique, elle doit se faire à partir de ceux qui la vivent sur le territoire. Et les municipales seront un grand enjeu. Il est important d'être là. Il y a une crise politique et une crise de la représentation. Il y a une crise même d'une forme de représentation de la démocratie, la démocratie participative ou la démocratie représentative. En tous les cas, j'aime beaucoup la notion de Pistoletto qui parle de démopraxie. Il faut que les gens soient au cœur de ce qui les concerne et de la pratique de des choses. Et donc, je réagis en me disant que les municipales, ça va être un enjeu vraiment important, et j'espère qu'il sera un enjeu de sincérité, de conviction et d'envie de faire les choses pour les territoires.
Alors vous êtes une éditrice qui a fait une incursion en politique, et à côté de moi, j'ai Aurélien Bélanger, qui est un écrivain qui a fait une incursion dans l'actualité, puisque vous donnez, Aurélien Bélanger, un papier par jour, comme on dit en radio. On appelle ça aussi un papier. Comment ça vous a transformé ? Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans cet exercice qui est donc quasiment un exercice quotidien ?
Bah, ça m'a rendu beaucoup plus studieux et beaucoup plus sérieux. Déjà, le défi, c'est de sortir de sa paresse. Et on a tous les jours des idées. Là, quand j'ai une idée, c'est quelque chose d'un coup d'extrêmement précieux qu'il faut que je saisisse. Donc, il y a plein de fois où c'est compliqué d'écrire de la chronique. Et il y a plein de fois où j'ai une idée, je m'assois et je passe une heure immobile, comme ça, avec mon ordinateur sur les genoux, à écrire une chronique. Chose que je ne faisais jamais parce que j'avais toujours la paresse. Donc, bizarrement, ça m'a ramené à un état très antérieur à mon état de romancier quand j'étais un adolescent qui tenait un journal intime. Il y avait quelque chose de cet ordre là de l'exercice quotidien comme exercice spirituel, et donc ça m'a vraiment obligé à être moins paresseux.
Sauf que peut-être dans votre journal intime, vous ne parliez pas de Julien Gracq, des Rafales, de la lutte des classes, du rap français, des Ectomèdes, du Front National, de Tolbiac, de la critique littéraire. Je cite quelques-uns des thèmes des chroniques que l'on a rassemblés donc sous ce titre « La France ».
Bah, le jeu, c'est de... Alors, soit on attaque directement l'actualité, mais j'ai pas exactement fait ça, mais un petit peu, c'est plutôt...
Un petit peu quand même, puisque je vous ai entendu récemment parler de la France insoumise...
Disons, l'idée, c'est de saisir l'esprit du temps, avec cette espèce de chance que c'est un espace d'écriture qui est très libre et qui, en même temps, est indexé sur la quotidienneté, chose que n'est pas du tout un roman, qui est un objet un peu lourd, comme ça, qu'on traîne comme une grosse pierre sur des rondins, alors que la chronique, elle peut raconter des choses. Par exemple, je me serais pas vu, j'ai écrit ma première chronique sur les gilets jaunes quelques jours avant les gilets jaunes, parce que j'étais allé faire du vélo en Seine-et-Marne et j'avais vu tous ces gilets fleurir sur les pare-brises des voitures, sous les pare-brises des voitures. Je me serais pas vu ne pas en parler. Il y a quelque chose comme ça de... Ce qui est intéressant, c'est d'écrire une chronique sur quelque chose qui nous sollicite intellectuellement. Donc après, on s'assouplit un petit peu et puis on apprend peut-être à être sollicité intellectuellement par plus de choses qu'on l'aurait fait dans sa vie ordinaire. Mais le défi, c'est d'aller vraiment chercher le... Moi, j'avais été beaucoup marqué par la théorie d'Alain sur Stendhal, où il disait que le roman, c'est l'esprit du temps. Et cette idée d'esprit du temps me fascine un petit peu. Et par l'écriture, parce que l'écriture est bizarrement, je trouve, une activité beaucoup moins intime qu'on prétend. On assemble des mots et on essaie de toucher comme ça une sorte de logos du temps, de ce qui se dit. Donc c'est pas tant de faire état d'une opinion intime que de raconter comment est-ce que le réel a un moment peut se raconter.
Françoise Nyssen, dans votre livre Plaisir et nécessité, vous dites j'ai une passion, les livres, donc vous aussi vous retrouvez dans cette passion littéraire.
Et on a une passion commune, tous les deux. Parce que j'ai lu que Aurélien Bélanger s'était nourri au Club des Cinq d'Enid Blyton.
C'est vrai, ça a été ma première grande révélation littéraire.
Et je voudrais vous dire merci, parce que ce matin, en arrivant justement au studio où je suis à France Bleu, c'était compliqué les boutons. Et puis pour prendre mon ticket de parking, c'était compliqué aussi les boutons. Aujourd'hui, c'est pas très simple. Donc merci de votre chronique d'hier sur les boutons.
Sur les boutons, effectivement, Aurélien Bélanger.
Bah, des fois, le prosaïque nous permet de toucher quelque chose, cette espèce de rapport bizarre à la cybernétique. Et où sommes-nous par rapport aux machines et à la civilisation industrielle? Et le bouton, bah, c'est effectivement la porte d'accès à ce monde merveilleux. Ouais.
Et donc, j'ai pensé à vous ce matin en arrivant au studio.
Ça veut dire que la littérature vous accompagne tous les jours. Quand vous étiez rue de Valois au ministère de la Culture, Françoise Nyssen, quels sont les auteurs qui vous aidaient à vivre? Vous avez connu des moments difficiles, comme tous les politiques. Ça n'a pas été facile. Vous le racontez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Alors, une chose qui est évidente, c'est quand on est en responsabilité au ministère de la Culture, le temps est plus que limité et le temps de la lecture est celui des dossiers. Et heureusement que j'avais une vie dans les livres pour et les auteurs que j'ai rencontrés, que j'ai continué à voir pour me nourrir. Mais j'ai pris le parti, par exemple, en 2018, j'ai lu en début d'année 2000 pages. Et ces 2000 pages, c'était Paul Auster, 4-3-2-1, et c'était Zaphone, Le labyrinthe des esprits, parce que du coup, ça me donnait la possibilité de me rééchapper dans ce que peut apporter la littérature de plus extraordinaire et de cette... ça apporte tellement plus, comme disait mon père dans sa lettre à Jeanne, que les miroirs.
Mais rétrospectivement, ce passage en politique, parce que même votre discours... Alors, moi, je vous connais un peu, je sais que vous êtes une femme libre, vous avez une parole vive, et quand vous étiez en politique, cette parole n'était pas la même.
Il fallait porter des sujets, j'étais en élaboration, ça va vite, et je n'avais jamais pris
l'habitude... Plus que ça, on a l'impression que vous étiez une femme contrainte, etc., alors que
tout ce que vous racontez
dans Plaisir et Nécessité montre au contraire que vous êtes une femme libre, vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire de votre
Absolument.
Vie, sauf pendant 18 mois.
Non, j'ai fait ce que je voulais pendant 18 mois d'une certaine façon, puisque les sujets que j'ai abordés sont des sujets, et vous l'avez vu, j'imagine, à travers ce que je dis dans le livre, en cohérence avec ce que je suis. Et tout ce que j'ai travaillé et porté en termes d'accès à la culture, et notamment cette essentielle pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, l'éveil au sensible, tout ce qu'on a soutenu en termes d'action pour la lecture, vous savez, ces expériences extraordinaires de silence, on lit à l'école, etc., ce qui se passe dans les médias et tout, je l'ai porté. Mais ça intéressait moins la presse, c'est ça qui était extraordinaire. C'était comme si on ne s'intéresse qu'au train qui arrive en retard, d'une certaine façon. Il y a eu des tas de choses qui ont été faites et qui ont été portées. Et je suis extrêmement heureuse de les avoir portées, je les ai portées avec beaucoup de liberté. Mais peut-être qu'on attendait de pouvoir parler des clous qui dépassaient, plutôt que de parler de ce qui se faisait.
Merci en tout cas, Françoise Nyssen, d'avoir été avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence, grâce à France Bleu, que je remercie. Votre livre « Plaisir et nécessité » chez Stock. Et puis j'espère que bientôt, nous pourrons faire une émission à Arles, si les moyens de Radio France le permettent. À bientôt donc, Françoise Nyssen.
Et merci d'avoir accepté de m'entendre de là où je suis et où je vis.
Merci beaucoup. Et on va continuer à se faire plaisir, à faire plaisir aux auditeurs. On va parler des chroniques littéraires d'Aurélien Bélanger. Je vais vous faire entendre un homme qui se livrait à ce même exercice sur l'antenne de France Culture, Jean-Louis Aisine. Il parle des écrivains, c'était en 2011. Écoutez.
Ce n'est pas pour en dire du mal, mais l'écrivain moderne, l'écrivain contemporain, s'est beaucoup assagi par rapport au modèle ancien. Il suffit pour s'en convaincre de faire un tour à n'importe quel salon du livre, il en fleurit partout, puisqu'aujourd'hui on expose les écrivains dans des salons où il est loisible de les observer. L'écrivain de 2011 est tranquille, circonspect, sérieux et modéré dans son approche. Il n'y a presque plus de grande gueule dans ce métier, de ces gens qui ont un caractère. Je me rappelle d'un mot de Philippe Djian à cet égard. Il me disait qu'un écrivain, dans son esprit, c'est irritable et irritant par définition. C'est mal élevé, c'est mal léché, c'est marginal, c'est bizarre, c'est à gauche. Il m'avait bien dit « à gauche » et non pas « de gauche », attention. Il voulait dire qu'un écrivain, ce n'est pas dans la société, c'est à côté. Et c'est de côté qu'il nous regarde avec cet avantage que procurent toujours les positions décalées. Mais aujourd'hui, l'écrivain se doit d'être dedans, d'être dans le coup. Dans le coup, mais bien comme il faut. Il est rentré dans le rang. Il est certain que les salons nous le polissent, nous l'arrondissent, nous l'adoucissent. C'est la mort de la grande gueule. C'est l'extinction du sauvage. Jacques Perret avait déjà en son temps remarqué l'émergence d'un type nouveau d'homme de lettres qu'il appelait le signaturiste. La personnalité du signaturiste est parfois rehaussée d'un cocktail avec olives aux anchois, femme du monde, petite séance photo, et il n'y manquera bientôt plus qu'une tombola ou un tirage de la loterie nationale ou peut-être même le concours de la musique de la garde républicaine, puisqu'on nous explique que le roman est un produit fabriqué, soumis comme les autres aux lois de la publicité, dont la première est de faire du bruit. Eh bien, pourtant, le signaturiste affecte de considérer avec mépris tout ce shabadabada comme une galère, une servitude à laquelle il ne consent que par amitié pour son éditeur et par affection pour son public. Et il fera semblant d'être nostalgique des époques révolues où l'écrivain avait tout à dire et rien. Rien à brader.
Voilà, alors ça c'était la voix de Jean-Louis Aisine, beaucoup s'en souviennent, c'était en 2011, il parlait de l'écrivain moderne, et puis aujourd'hui c'est vous, Aurélien Bélanger, qui vous livrez, non pas au même exercice bien entendu, mais qui remplissait en quelque sorte la même fonction, c'est-à-dire la chronique à dimension littéraire sur France Culture.
Oui, bah, pour répondre à distance à Jean-Louis Aisine, je dirais qu'il faut pas se tromper sur l'écrivain est quand même un peu un faillot, c'est important. C'est important d'avoir cette position, d'être socialement très intégré et d'avoir aussi une distance vis-à-vis de ça. Donc la position est un peu entre celle du faillot, et du cancre. Et il faut pas se tromper sur les fausses scolaires. On est une société très civilisée, très policée, et je pense que on n'arrive pas à grand chose si on est trop radical. En fait, on tombe beaucoup plus facilement dans la caricature. Et on voit que la grande tradition française, c'est plutôt des choses des moralistes doux, des choses à la Bruyère, et que ne sont bons pour raconter vraiment le monde que des gens qui ont été d'abominables snobs de Saint-Simon à Proust.
Mais vous n'êtes pas snob.
Non, mais il y a une politesse.
Il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ce que je dis. Non, d'ailleurs, j'aime beaucoup les snobs. J'aime beaucoup les non-snobs, mais vous, c'est pas du tout ça qui vous caractérise.
Non, mais il y a un devoir de politesse vis-à-vis de la société et un devoir d'échange. C'est difficile. C'est difficile d'être pertinent si on n'est pas un peu bon élève. Et bon élève, ça veut dire ça peut aller parfois jusqu'au conservatisme, savoir un certain respect pour la chose en place. Et je pense que si on n'a pas un respect pour les institutions, on n'est pas capable d'en voir la vanité profonde. Et je pense que le mouvement littéraire est beau parce qu'on se rend compte qu'en fait les choses les plus respectables sombrent dans un néant infini dès qu'on les regarde un petit peu sérieusement.
Enfin, en tout cas, il y a une chose qui est certaine chez Aisine, comme chez vous, comme chez les autres chroniqueurs qui ont marqué la radio. On entendait Pierre Dac tout à l'heure, on pourrait penser également à Alexandre Vialat. Alors là, il n'a pas marqué la radio, mais il a marqué la montagne. C'est qu'ils ont un univers bien particulier. Il y a un univers d'Aurélien Bélanger qui est fait de France périphérique, de centres commerciaux, d'IKEA, et de zones comme ça qui sont des zones qui, jusqu'à présent, avaient été plutôt délaissées par la littérature.
Disons que je parle à titre personnel, ma vraie expérience, ma vraie francité, ma vraie expérience de français est une expérience d'étrangeté. Plus je me sens français, plus je me sens étranger. Pas étranger, je vais pas dire que je suis étranger à mon propre pays, mais je trouve ce pays profondément étrange et interrogeable. Donc c'est amusant d'aller chercher les endroits où la carte se décolle un petit peu du territoire. Et effectivement, des fois c'est évident parce que c'est sempiternelle zone commerciale qu'on a vu comme quelque chose de monstrueusement laid et qui trahissait l'esprit de la France. Je pense que les mêmes qui n'aiment pas les Conforama et les Buttes avaient pas trop aimé la Révolution gothique par exemple. Ces changements profonds de la carte, alors qu'il y a des choses extrêmement belles. Enfin, il suffit d'aller sur un parking désolé d'un multiplex l'hiver à 18h et de photographier le crépuscule au milieu des lampadaires. C'est instantanément sublime. Donc des fois j'essaie de rendre grâce un petit peu à ces expériences en allant parfois effectivement jusqu'à la mauvaise foi.
La mauvaise foi, je ne sais pas. Par exemple, j'ai sous les yeux un texte que vous avez consacré au magasin de bricolage. Alors on lit par exemple: émerveillé enfant par la publicité pour la super glue, je me retrouve dès que j'entre dans un magasin de bricolage avec les cheveux en l'air et les pieds au plafond. C'est-à-dire qu'il y a une manière de voir chez vous qui est empreinte d'ironie, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, mais où vous ne ridiculisez pas le sujet que vous traitez. C'est-à-dire, je crois par exemple que vous avez un amour sincère des magasins de bricolage.
Un amour sincère mêlé d'un sentiment confus de décadence. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un magasin de bricolage? C'est la pointe extrême du monde industriel. C'est là où les molécules sont les plus savantes et les mieux dressées. Et où on a poussé la physique dans ses derniers retranchements électromagnétiques ou ce qu'on veut. Donc c'est à la fois une merveille d'habiter dans ce monde qui est beaucoup plus compliqué que ne l'a été précédemment le monde naturel et d'être contemporain de ces efflorescences d'artefacts. Et en même temps, est-ce que je peux pas ne pas m'empêcher de voir ça peut-être pas comme une décadence, mais comme une étrangeté, est-ce que tous ces objets sont bien nécessaires, ouais. Et on le voit avec le destin triste des meubles Ikea qui fondent littéralement sous les trottoirs dès qu'il pleut quand les gens s'en débarrassent. Une sorte de devenir champignon de nos meubles, alors que le meuble était censé être un objet de pérennité auparavant.
Mais pour autant, vous ne vous contentez pas de la facilité que serait la critique pur et simple de la société de consommation qui a été faite des millions de fois et qui...
Non, parce que j'ai une fascination profonde pour ce qui existe. Et de fait, je pense être un peu l'enfant de ce monde. Ce serait... Carrefour est au plus central dans mon expérience du monde que Marcel Proust, même si je préférerais l'inverse.
Vous dites d'ailleurs que pendant très longtemps, vous le dites dans ce recueil de chroniques La France, publié chez Gallimard en coédition avec France Culture, que pendant très longtemps, vous avez confondu Proust et Freud. C'est pourtant difficile de faire la confusion.
Parce que ça parlait de l'âme, c'était très court, c'était un monosyllabe, et puis il y avait ce mystérieux R, et donc j'ai un petit peu confondu. Et
quand est-ce que vous êtes sorti de cette confusion, Aurélien Bélanger?
Vers 12-13 ans, quand même.
Et ça s'est passé comment?
Ma sœur avait commencé à lire du côté de chez Swann, et là j'ai à peu près compris. Elle le vendait comme le plus grand écrivain français de tous les temps, et j'étais hyper fier parce que j'avais compris que c'était un grand écrivain, mais je pensais qu'il était autrichien, donc j'étais content qu'il soit rapatrié soudain.
Parmi les jeunes écrivains, les écrivains de la nouvelle génération, comme on dit, c'est cette génération-là à laquelle vous appartenez, finalement vous avez peu lu vos contemporains.
Oui, c'est quelque chose que disent souvent les gens. Je lis que des gens morts, etc. C'est à cela plein de raisons. L'une étant l'économie, parce que c'est plus facile d'aller lire les classiques, parce qu'ils ont déjà été validés, que d'avoir la curiosité. Moi, j'ai l'impression, je suis pas très fier de ça. J'ai l'impression toujours d'être le mauvais élève, quoi. Déjà, j'ai envie qu'on me lise, mais je lis pas trop les autres, donc j'ai l'impression dans ce système d'échange de pas être très juste. Et puis c'est quelque chose qui est aussi lié à la situation de la littérature. La littérature se vit depuis pas mal de temps sur le mode du déclin. On voit des écrivains comme Richard Millet, par exemple, la totalité de leur œuvre raconte que le roman est mort, de façon extrêmement étrange, en fait. Enfin, cette veine existe et elle est très insistante. Et de fait, il y a peut-être eu un moment, moi, c'est pour ça que la découverte de Houellebecq a été importante pour moi. Il y a peut-être eu un moment où la littérature française était devenue une sorte d'enclave un petit peu savante et raffinée qui parlait pas tout à fait du monde, mais qui parlait un petit peu d'elle-même.
Oui, alors d'ailleurs, Houellebecq occupe effectivement une place à part chez vous, et vous avez vis-à-vis de lui une attitude admirative. J'ai même trouvé que vous étiez beaucoup trop gentil à l'égard de son dernier livre qui ne méritait pas les louanges que vous lui dressiez. Mais c'est un point de vue, hein, Aurélien Bélanger. En tout cas, on voit qu'il y a un lien particulier avec Houellebecq chez vous.
Bah parce que c'est la découverte de mes 20 ans, et c'est quelque chose d'important, parce que c'est plutôt c'est bizarre de dire ça parce qu'aujourd'hui il est plutôt connu comme un écrivain réactionnaire, mais moi je l'ai reçu comme le modernisateur des lettres françaises, celui qui achevait enfin ce 20e siècle qui mettait un peu de temps à mourir et qui ouvrait un 21e siècle plus roboratif en termes de conduite de récit et de présence, par exemple, d'un élément théorique dans le roman, chose qui m'enchante mais qui avait un petit peu disparu à un moment.
Mais alors, lorsqu'on dit Houellebecq, alors je pense par exemple à ce qu'Antoine Compagnon, professeur de littérature, disait du dernier Houellebecq, c'est une structure très simple, les personnages apparaissent et disparaissent successivement de telle sorte qu'il y a toujours un personnage à la fois, il y a une forme de facilité dans l'écriture. Qu'est-ce que vous répondez ?
Pas grand chose. Enfin, il y a des bons romans très simples. Hein. La mort d'Ivan Illich, il y a un seul personnage et on fait jusqu'à sa mort, il y a pire. Je sais pas, je suis pas un Houellebecquien dur, il y a eu un moment une sorte de bizarrerie qui a été de dénier à cet auteur le statut d'écrivain, donc on en est un petit peu sorti. Moi j'aurais tendance plutôt à lui dénier le statut d'intellectuel, c'est un intellectuel un peu confus, mais c'est un écrivain remarquablement précis. Ouais.
Et puis on est entre nous, quels sont au contraire les écrivains qui pour vous ne méritent peut-être pas les louanges qu'on leur tresse?
Les livres qu'on lit en se sentant mieux, probablement, c'est quelque chose de... Enfin, j'écris pas des livres pour qu'on se sente mal, mais le seul plaisir, vraiment, une sorte de plaisir spinoziste et dur de la compréhension du monde, est tout à fait suffisant. La littérature est pas une activité consolatrice. De simplement pouvoir raconter les choses me procure déjà une joie et un élan d'optimisme infini. Il n'y a pas besoin, en plus, d'expliquer un peu faussement que l'amour est quelque chose d'important, quoi.
Et vous, pourquoi écrivez-vous, et vous avez justement consacré une chronique parmi donc toutes celles que vous avez données pour les matins de France Culture et qui sont rassemblées sous le titre « La France » aux éditions Gallimard France Culture. Vous avez consacré une chronique à l'auto-analyse, Aurélien Bélanger. Vous vous en souvenez ?
Pas du tout.
Écoutez, je vais vous en lire un extrait. Chez moi, c'est zéro commentaire, narrateur neutre, autofiction, néant. Et pourtant, dès que je dois écrire autre chose, un article, livret d'un catalogue, la crise égotique menace, le narcissisme me submerge.
Oui, de fait. C'est quelque chose d'assez mystérieux, en fait. Quand j'ai l'impression que dès qu'on est dans l'intime, on s'éloigne de soi. Le vrai sujet, son espèce d'essence la plus pure, c'est le moi distribué dans le monde. C'est là où on est à peu près correctement soi-même. Mais dès qu'on se restreint, moi, par exemple, dès que je m'interroge sur mon parcours intellectuel, je tombe très rapidement dans de la démographie. J'ai écrit récemment, par exemple, que Emmanuel Todd était mon Sigmund Freud. Je comprends bien plus les types d'opinions que j'ai quand j'analyse mon substrat démographique que quand je réfléchis longtemps à moi-même. Donc en fait, dès que je crois tomber sur du singulier, je tombe très vite sur de l'universel et sur des déterminisme sociologique dur. Donc c'est pas exactement là le lieu. Donc quand je raconte des petites scènes d'enfance et que enfant je croyais telle chose, etc., je me livre finalement pas tant à un travail d'exploration barésienne ou proustienne du moi qu'à une description sociologique de la société dans laquelle j'ai grandi. J'ai l'impression que le point d'intimité le point d'intimité et le point d'universel.
Et sur le monde de la radio, puisque finalement, depuis maintenant près de 2 ans, vous êtes là, vous nous observez, alors vous êtes dedans et dehors, puisque vous n'êtes pas journaliste. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en avez retenu?
La fascination pour la fabrication de l'actualité, d'aller chercher là où ça bouge, toujours. Et je pense qu'il y a quelque chose de bizarrement beaucoup plus proche de la politique que je pensais, dans la mesure où c'est toujours la mauvaise politique, c'est quand on dit que c'est horrible et que les choses doivent changer. La bonne politique, c'est quand on voit là où il y a du possible et que là où des choses peuvent advenir. Et je trouve dans le travail quotidien de l'actualité quelque chose de cet ordre qui m'enchante plutôt.
Comment vous définiriez ce monde s'il a une caractéristique, cet univers de la radio, avec ses studios, avec le monde de la voix, avec les différents métiers, puisque tout ça, il y a 2 ans, vous étiez un auditeur quand je vous ai appelé que votre enfant essayait d'ingérer un Lego, ce qui est un exercice quotidien chez certains enfants, et bien donc vous ignoriez ce qu'était la radio, Aurélien Bélanger.
Oui, tout à fait. Monde sympathique et chaleureux, avec en plus des jolies lumières rouges qui font pour beaucoup le charme de la chose. Et des lumières rouges, pas du tout les charbons de l'enfer, des lumières rouges un peu mates, qui ont une élégance qui serait, si je tente une métaphore un petit peu dégoûtante, comme des glottes qui bougent devant nos yeux, quoi.
Chaque chroniqueur a un marbre, comme on dit, c'est-à-dire l'idée d'une chronique. Parfois elle est écrite, parfois elle n'est pas écrite. Qu'il sait qu'il balancera, si vous me passez l'expression, quand d'aventure il a une panne sèche, parce que je sais pas vous, mais bien souvent on a très très peur d'avoir la panne sèche. Vous l'avez encore?
C'est peur quotidienne, et je pense que quand on l'a plus, c'est super mauvais signe. Mais oui, non, peur quotidienne. Là, en fait, j'ai 2 ou 3 chroniques d'avance en permanence. J'essaie toujours d'avoir.
Bon, mais si un jour on vous vole ces 3 chroniques d'avance, si je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive une catastrophe studio, informatique rêve, générale, rêve. De quoi parlerez-vous?
Je pense que je décrirai un paysage familier. de façon impressionniste, et puis je ferai monter progressivement la présence menaçante de l'anthropocène dans son visage bucolique.
Pourquoi l'anthropocène ?
Bah, parce que c'est le thème à la mode, et puis c'est amusant toujours de cesser d'opposer nature et culture comme ça, en voyant que ce qu'on croit être le plus pittoresque est en fait la chose la plus articulée et la plus mécanisée qui soit.
Oui, parce que il y a quand même, alors, il y a quand même énormément de paysages qui reviennent, mais alors, ce sont souvent des paysages mixtes avec, bien souvent, ces zones périphériques. Non pas que Christophe Guy, lui, occupe une place importante dans vos chroniques, je sais même pas d'ailleurs si... Vous l'avez cité, bah voilà, vous l'avez pas lu, donc c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas cité. Mais en tout cas, c'est ça le paysage privilégié chez Bélanger, quoi.
Au plein cœur du début du mouvement des Gilets jaunes au mois de décembre, j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis mes 18 ans. Je me suis mis à tenir un journal intime. J'ai arrêté depuis, au fur et à mesure que le mouvement déclinait, parce que cette chose m'interrogeait en tant qu'événement intime. Je ne sais absolument pas de quel ordre. J'étais pas du tout engagé dans la chose, mais j'ai vu des choses bouger, pas tant en France que dans mon esprit. Et du coup, j'ai voulu un petit peu explorer ça. Je sais pas du tout ce que j'en ferais, mais c'est quelque chose de tout à fait inédit qu'on retrouve un petit peu des fois quand les gens racontent leur mai 68, ils racontent que c'était aussi un événement psychologique avant d'être un événement social.
Aurélien Bélanger, La France, c'est donc ce recueil de chroniques que publient France Culture et Gallimard.